FM 93 vous présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Le Rougeur a joué un match beaucoup trop facile. Le Canadien revient au Centre Bell ce soir, gonflé à bloc après deux grosses victoires dans l'Ouest. Et les Remparts ont perdu. Patrick Roy se questionne pour les étoiles. Je comprends pas.
Le Canadien remporte une victoire à l'arraché. 3-2 aux mains des Canucks de Vancouver.
Match à sens unique pour la Coupe UTEC, complètement dominé par le Rouge-Or. En quête d'une autre victoire à la Coupe Vanier, ce sera leur 12e participation à la grande finale canadienne.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1985. J'espère que vous allez bien. Un autre gros week-end dans le monde du sport. Les gens qui trippent sur le hockey, vous en avez eu toutes vos attentes. Les gens qui trippent sur le football également, vous en avez eu pour votre argent, parce qu'il y en avait du football dans la région de Québec en fin de semaine. Il y en avait à l'échelle provinciale avec la présentation des bols d'or. Malheureusement, les équipes de Garneau et du SSF ont perdu. Le Rougeur a gagné un match beaucoup trop facile. C'était les demi-finales de la CFL, si comme Éric Duhaime, vous aimez la CFL. Et dans la NFL, on va reparler tout à l'heure avec le collègue Will Boivin. Il y a eu beaucoup d'actions dans la NFL et il y a eu beaucoup de matchs serrés. C'est ce qui m'a le plus marqué des matchs du week-end dans la NFL. Beaucoup de matchs qui étaient serrés par 1, 2 ou 3 points. Hier matin, j'ai suivi une formation pour être arbitre au hockey mineur. J'ai pensé à ça dans les dernières semaines, puis je me suis dit que ça allait être une bonne façon pour moi de m'impliquer. J'aime le hockey mineur. J'ai de très bons souvenirs de mon hockey mineur. J'ai joué au hockey jusqu'à Midget 2A dans la région de Charlebourg. J'ai dirigé quelques équipes également, mais là, à la radio, le manque de temps fait en sorte que je peux pas bien coacher aucune équipe. Mais en arbitrant quelques matchs, ben je vais pouvoir vous parler de ce que je vais voir dans les arénas. Je vais quand même régulièrement voir des matchs de hockey mineur. Je suis pas mal au fait de ce qui se passe. Si jamais vous avez des histoires positives ou négatives à me raconter ou constructives, c'est possible de le faire sans trop de problèmes en m'écrivant ou en interagissant sur Twitter. Sur Twitter, c'est sûr que c'est un peu moins privé, mais mon courriel est encore plus simple. Dan Pou, à commercialfm93.com ou encore sur Facebook en message privé. Et voilà. J'ai pas acheté mon sifflet encore. Merci, Will. C'est un beau clin d'œil. Ça, c'est le sifflet de l'arbitre, mais j'ai pas acheté mon sifflet. Demain matin, je vais aller à l'entrepôt, puis je vais tout faire ça. J'ai déjà communiqué avec Stéphane, le gérant de l'entrepôt, puis il va m'équiper en arbitre. Je vais être prêt à faire des matchs dans les prochaines semaines. Vous savez... Oh, les gens applaudissent déjà, ouais. Ça va dépendre des huées, par contre, dans les effets sonores. Parce que quand on arbitre un match de hockey mineur, souvent, on se fait crier chou, peu importe c'est qui l'arbitre, peu importe c'est qui les parents. Ouais. Parfait. Celui-là, garde-le pas trop loin. On va probablement en avoir besoin dans les prochaines semaines.
Wow!
Ouais, ça, on sait pas encore. Ça, on sait pas. Hey, wow, je m'habitue pas. Je le trouve tout aussi mauvais à chaque fois que Will vous le présente. Parlant de hockey, je suis allé voir hier l'équipe des Chevaliers. Très bonne équipe de hockey. Je vous en parle depuis le début de la saison. 24 victoires en 24 matchs. Et le Blizzard n'a pas une si mauvaise équipe, mais le Blizzard, vous savez quoi? Ils n'ont aucune chance de marquer. Ça a fini 5-2 hier. Le Blizzard a beau essayer, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas entrer dans le territoire de Lévis puis espérer marquer un but. Ça n'arrive pas. C'était 3-0 après 2. Ça a fini 5-2. Vendredi soir, à Charny, les Chevaliers ont gagné en tir de barrage. Sincèrement, les Chevaliers de Lévis, c'est une année exceptionnelle qu'on envoie, comme on envoie une fois aux 30 ans. Et cette année, on l'a dans la région de Québec, cette équipe-là. Elle est à Lévis. Également, je veux vous dire que la Coupe Stanley va être à Québec dimanche. Les Capitals de Washington ont fait un beau geste à l'endroit de leur recruteur Martin Pouliot, qui est un chum à moi depuis plusieurs années. Martin travaille pour les Capitals depuis 1997, donc ça fait 21 ans qu'il est à l'emploi des Capitals de Washington. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Vous le savez, le processus, les joueurs ont toujours 24 heures avec la Coupe Stanley, mais ce dimanche, ici à Québec, Martin Pouliot pourra profiter d'une journée avec la Coupe Stanley. Évidemment, elle vient avec la Coupe. Le monsieur Blondinet avec les gants blancs, là, évidemment, lui, il va être là. Il va suivre la Coupe partout où la Coupe va aller. Mais dimanche, on va pouvoir profiter du fait que les Capitals, les visiteurs au Centre Bell ce soir, ben ils ont gagné la Coupe Stanley au mois de juin l'année dernière. La Coupe Stanley sera à Québec dimanche. Et si jamais c'est ouvert au public, je vais vous revenir demain dans l'émission pour vous donner les détails. Si jamais il y a des gens qui veulent prendre une photo avec Martin et avec la Coupe Stanley, si vous jamais vous voulez inviter vos jeunes enfants, ce sera peut-être possible de le faire. Je vais m'informer, je vais vous revenir demain dans l'émission. On va écouter à l'instant le résumé sonore du week-end sportif. Ensuite, on parle avec Louis-Jean, animateur à TVA Sports.
Dans l'avant-match, voici le résumé sportif du week-end.
Bonne partie, bonne soirée. Le Canadien est à Vancouver ce soir. Voilà maintenant Scheller, tire au cercle, bel arrêt de Price. Retour encore, Granlund, un autre arrêt de Price. Et pas de retour ensuite. Matthews, premier rendu, pourchassé par Eriksson, il s'en défait. Belle bombe, au Tatar est seul, derrière les défenseurs, il lance et goal. Dommage, Tatar et le Canadien brise la glace. C'est 1 à 0. Retour à Goldobin, ensuite à la ligne 2. Ensuite, cercle gauche. Autre tir et goal. Elias Pettersson. Et c'est 2 à 1. En avantage numérique. Gallagher tente de récupérer contre Hutton. Intervention d'Ano. Passe à la pointe gauche. Voilà Drouin se détache. Il lance. Et court. Jonathan Drouin. Et c'est 3-2. Et voilà, c'est la fin. Le Canadien remporte une victoire à l'arraché. 3-2 aux mains des Canucks de Vancouver.
Match à sens unique pour la Coupe UTEC, complètement dominée par le Rouge et Or. En quête d'une autre victoire à la Coupe Vanier, ce sera leur 12e participation à la grande finale canadienne.
C'est un beau match. On aimerait bien se rejouer contre Western, c'est sûr. Je pense qu'on aimerait tous, comme organisation, avoir la chance de pouvoir se remesurer à eux.
Ça va être super spécial pour moi, non seulement pour moi, pour les autres joueurs de la cinquième année aussi, d'avoir l'opportunité de jouer tous les matchs de la saison, tous les matchs de série éliminatoire à la maison, puis de pouvoir finir dans un match de Coupe Vanier à la maison. On ne pourrait pas demander mieux.
Marque finale 48-7. Les Eagles perdent par 41 points. Il s'agit de la pire défaite subie par une équipe championne en titre du Super Bowl dans l'histoire de la NFL.
Zverev. 6-4, 6-3.
Grabs the biggest title of his young career.
L'avant-match.
Dans l'avant-match, voici Louis-Jean.
Monsieur Louis, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous-même.
Ça va très bien, merci.
Je me demande bien de quoi qu'on va parler aujourd'hui.
Ben, on va vous rendre hommage, évidemment, comme étant le seul au Québec qui croyait au retour de Carey Price. Il a très bien fait lors des matchs à Calgary et à Vancouver. Bravo.
Écoute, c'est deux matchs. C'est seulement deux matchs. Je pense qu'il faudrait qu'il nous le montre un peu plus, avec plus de régularité. Mais écoute, le match de samedi, pour ceux qui l'ont regardé, c'est sûr que le Canadien ne va pas chercher deux points sans Carey Price. Et je dirais la même chose contre les Flames de Calgary. Mike Smith a aidé la cause du Canadien jeudi, ouais, mais écoute, Price quand même a montré de belles choses, a été très, très solide dans ces deux matchs-là, plus de 40 tirs en moyenne lors de ces matchs-là, les trois matchs dans l'Ouest. Le premier, évidemment, c'était Niemi devant le filet, mais je pense que c'est encourageant. Je pense que pour Carey, il peut revenir à la maison. C'est une grosse semaine et rentre à la maison avec beaucoup de confiance.
Absolument. Tu dis une grosse semaine, puis c'était un de mes points sur lesquels je voulais m'arrêter. Washington ce soir, New Jersey mercredi, Buffalo vendredi et Boston samedi. Évidemment, je voudrais pas partir en peur. Un, parce que c'est pas mon genre. Je voudrais pas faire ce que je reproche à d'autres. Sans dire que c'est une semaine déterminante, Louis, c'est quand même le genre de semaine où si tu gagnes 3 sur 4, tu es capable de convaincre tes partisans et d'envoyer un message aux quatre coins de la Conférence de l'Est que tu es sérieux pour faire les séries. Ici, à l'inverse, tu perds 3 sur 4. Il y a des gens qui se mettent à douter de toi. Là.
Si tu perds 3 sur 4, tu es de retour un peu à la case départ parce que quand on regarde le classement, le Canadien présentement est en séries éliminatoires. Mais c'est toujours très précaire. Il y a tellement de parité. Tu regardes les Sabres de Buffalo, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est absolument incroyable de voir cette formation-là depuis le début de la saison. Une équipe qui est bourrée de talent, mais là, qui finalement commence à comprendre ce que ça prend pour gagner soir après soir. Et là, on arrive à un moment dans le calendrier, là, fin novembre, début décembre, où tu commences à grinder. Là. Grinder, là, faut que tu commences à vraiment travailler et gratter pour tes points. Ce qu'on a vu depuis le début de la saison pour le Canadien de Montréal, c'est qu'il y a deux trios qui ont été très réguliers. Les deux premiers trios du Canadien de Montréal font le travail depuis le début de la campagne, que ce soit celui de Philippe Dano, piloté par Philippe Dano notamment, avec Gallagher et Tatar, ils font le travail. Quand c'est pas eux, ben c'est le trio de Drouin avec Domi, et puis là, on est rendu avec Andrew Shaw qui fait le travail. Ils réussissent à marquer des gros buts, ils réussissent à redonner espoir à leur équipe, mais quand t'arrives dans une semaine comme celle-ci, selon moi, c'est là où, à un moment donné, il va falloir que tu aies de la part offensive de tes défenseurs. L'une des pires équipes, les Canadiens de Montréal, cette année, pour les buts qui proviennent de la ligne bleue. Alors, à un moment donné, tu vas devoir avoir besoin d'une aide de tes défenseurs. Tu vas aussi avoir besoin d'aide de tes troisième et quatrième trios, si tu veux pouvoir compétitionner à tous les soirs. Évidemment, le gros 31, ton gardien de but, s'il ne fait pas le travail, ben là, ça vient de siphonner beaucoup d'énergie à ton équipe. Donc, on arrive à un moment crucial, pas juste pour le Canadien, mais pour plusieurs équipes en général, où là, les points, là, les points que tu as mis en banque sont cruciaux, mais les points que tu vas aller chercher, et c'est tellement difficile mentalement, mais surtout physiquement, quand tu joues aussi régulièrement, et ça va vraiment tester cette équipe-là.
Louis, tu parles du Canadien qui joue bien, puis c'est vrai que le Canadien va très bien actuellement, puis c'est le fun pour les partisans. Il y a une statistique qui m'intéresse particulièrement concernant le Canadien depuis le début de la saison, c'est qu'ils sont revenus 5 fois en troisième pour remporter un match. Il y a seulement les Flames de Calgary qui ont fait mieux qu'eux à ce chapitre, avec 6 retours pour des victoires. L'année dernière, évidemment, à pareille date l'année dernière, le Canadien était pratiquement sorti du portrait des séries, mais quand ça débutait 1-0 ou 2-0 pour l'autre équipe, la plupart des gens changeaient de poste ou disaient « Ah, ben là, le Canadien va encore s'incliner ce soir. » C'est le fun de voir une équipe, aussi petite en gabarit soit-elle, pouvoir démontrer du caractère puis revenir dans les matchs. Ça, c'est important aussi.
Une équipe extrêmement résiliente. Puis ça passe par quoi? Ben là, la première chose sur laquelle on les a fait travailler sur la glace au camp d'entraînement, c'était par le travail. L'année passée, tu as raison de le mentionner, l'année passée, là, souvent, 1-0 pour l'autre équipe, c'était essentiellement, on fermait les livres, c'était terminé. Là. Je veux dire, c'est une équipe qui s'est écroulée, qui ne réagissait pas bien devant l'adversité l'an passé. Mais cette saison, écoute, il y a plusieurs joueurs qui sont encore là, qui sont de retour, mais c'est une équipe qui réussit à trouver une façon à s'inspirer à l'un l'autre. Les joueurs réussissent à s'inspirer et on dirait on veut relever ce défi-là. Donc, ça démontre beaucoup pour moi, beaucoup de caractère d'une organisation et d'une équipe qui, l'année passée, s'est fait critiquer pour exactement ça. Donc, ça démontre l'importance de la chimie dans un vestiaire. Ça démontre l'importance que si tu veux te fier sur ton talent dans la Ligue nationale de hockey, tu as zéro chance. Tu n'as pas de chance, tu ne vas pas compétitionner, tu n'as aucune chance de gagner. Alors, le Canadien de Montréal n'est pas l'équipe la plus talentueuse. On en a souvent parlé dans cette chronique-ci. Mais au moins, ce qu'ils ont cette année, c'est on met l'épaule à la roue et tant que on n'a pas entendu la sonnerie à la fin du match, on continue de travailler et ça a donné des résultats extrêmement intéressants.
Comment t'expliques ça? L'arrivée de Dominique Ducharme, le départ de Pacioretty ou l'arrivée de nouveaux joueurs comme Tatar et Domi?
Un peu de tout. Je dirais que c'est un petit peu de tout ça. C'est aussi, je pense qu'il faut inclure Claude Julien là-dedans. Dominique Ducharme arrive, Luke Richardson arrive également. Il amène une nouvelle énergie aussi, de nouvelles idées, ça, il n'y a aucun doute. Mais ultimement, là, celui qui prend les décisions sur l'alignement, celui qui prend les décisions sur comment on va faire les choses, comment on va jouer, le plan de match et ces choses-là, c'est le coach. Alors, je pense qu'il faut donner du coach et beaucoup de crédit, c'est-à-dire à l'entraîneur-chef, à Claude Julien, parce que lui aussi s'est regardé dans le miroir cet été. Lui aussi s'est dit, c'est pas vrai que c'est juste le joueur, puis c'est pas vrai que c'est juste un tel et un tel, puis c'est pas vrai que c'est juste parce que Price ne faisait pas les gros arrêts au moment opportun. C'est un peu tout. Puis celui qui est le leader de cette équipe-là, c'est l'entraîneur-chef. Alors, si l'année passée, ça n'a pas levé, puis ça n'a pas fonctionné, bien lui, il doit prendre du blâme, parce que c'est lui qui est supposé donner le leadership à cette organisation-là. Après ça, les joueurs dans le vestiaire, ton noyau, sont supposés d'un peu retransmettre le message de l'entraîneur-chef. Alors, moi, je donne beaucoup de crédit à Claude, je donne du crédit, évidemment, comme tu l'as dit, les nouveaux venus, je veux dire, Thomas Tatar, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Son but sur en échappée, oui. Samedi soir, oui. C'est un but de toute beauté. Max Domi, inspiré lui de jouer devant une foule qui le reconnaît, une foule dans un marché de hockey qui était pas vraiment certaine. Il a fallu qu'il prouve, il a fallu qu'il démontre ce qu'il est capable de faire. Mais là, il est en train déjà de devenir un favori de la foule. Alors, pour moi, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est un gars comme Carey Price, dont on parle beaucoup, qui lui aussi revient avec une meilleure attitude, se disant, OK, moi aussi, j'ai des preuves à faire. Puis moi aussi, je dois démontrer que je suis capable de faire le travail. Et commence à le faire. Alors, mais ça a commencé par l'attitude. Ça a commencé par des vétérans qui sont revenus en disant, l'année passée, là, on oublie ça. C'était pas notre vrai visage. On va le montrer, c'est quoi notre vrai visage cette année.
OK. Je pense qu'en fin de semaine, vous êtes intéressé à votre match du samedi soir au dossier William Nylander. Le Canadien va bien actuellement. Et souvent, on dit que c'est quand ça va bien qu'un DG doit améliorer son équipe. Parce que quand ça va mal, tu appelles les autres DG et ils disent « Hey, c'est-tu quoi, j'ai Internet dans mon bureau, je regarde le classement puis vous êtes dans le trouble, fait que tu vas payer cher si tu vas avoir un de mes joueurs. » Est-ce que toi, tu fais partie des gens... Moi, je fais partie des gens, avant que tu te prononces... Moi, je fais partie des gens qui pensent que le Canadien devrait s'intéresser à Nylander.
Je pense qu'il pourrait, oui, il devrait probablement s'intéresser à Nylander, mais moi, ma position là-dessus, c'est est-ce que tu dois aider ton équipe? Parce que là, présentement, ton équipe est en série. Est-ce que tu dois essayer d'améliorer les carences que tu as? Et pour moi, là-dessus, je mets un bémol, pas certain. Moi, je pense que tu es en train de bâtir de la bonne façon en donnant ce club-là et le redonnant aux jeunes. Tu as décidé de faire de la place au Kotkaniemi, puis aux jeunes joueurs comme ça, les Jolson, puis les Mété. Alors, pour moi, tu es dans la bonne voie. Tu as décidé de faire place à des jeunes que tu veux développer, des joueurs que tu as repêchés. Et clairement, quand on regarde la formule actuellement dans la Ligue nationale de hockey, ça, c'est la bonne formule. Alors, pour moi, tu ne dois pas sacrifier des joueurs que tu crois vont faire partie de ton noyau, des bons joueurs pour les années à venir. Mais... est-ce que William Nylander est un joueur qui va t'aider puis qui va faire partie, pourrait peut-être être même un des joueurs les plus importants dans ton noyau, il n'y a aucun doute. Maintenant, j'ai eu aucune information que le Canadien s'était entretenu ou était actif dans ce dossier-là. En fait, je pense que c'est pas du tout le cas. Mais, je veux dire, quand tu as un joueur comme ça qui pourrait potentiellement être disponible, et comme Bergie le mentionnait en fin de semaine, lui a lancé des hypothèses, a dit, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les Maple Leafs, selon Bergie? Écoutez, est-ce que c'est de la défensive? Moi, je pense que les Leafs ont démontré qu'ils sont peut-être meilleurs défensivement qu'on pouvait le penser. Mais si vraiment ce qu'on veut, c'est resserrer notre défensive et avoir un peu plus de leadership dans ce club-là, Bergie avançait le nom de Shea Weber. C'est le capitaine de l'équipe. Il n'a pas encore joué un seul match avec le C sur le chandail. Alors, je ne sais pas à quel point, honnêtement, c'est réaliste. Mais pensez-y, Mike Babcock, il disait quoi de Shea Weber? Il l'a qualifié de son Man Mountain. Les éloges qu'il a fait à l'endroit de Shea Weber, avec qui il a gagné une Coupe du Monde, médaille d'or olympique et tout ça, ben, écoutez, il le voit comme le genre de joueur autour de qui tu bâtis une équipe, parce que c'est un gars de caractère, c'est un gars de grand joueur, mais un gars aussi vraiment qui est un leader né, tout simplement, qui rend les autres autour de lui beaucoup plus imputables, mais meilleurs en même temps. Alors écoute, moi j'ai trouvé que le point à Bergie est intéressant. Est-ce que ça va se concrétiser? Pas sûr. Je pense que ça serait peu probable. D'ailleurs, je serais même pas surpris rendu là où on est. Si les Maple Leafs disent, OK, on n'est pas capable de s'entendre avec lui, au lieu de faire une mauvaise transaction et de paniquer, quelque chose qui va venir nous faire reculer, on va bien présentement, si on n'est pas capable de s'entendre, il jouera pas ailleurs, il jouera pas chez nous, puis on se reparlera rendu au mois de juillet.
Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que la date limite pour que les Nylander s'alignent dans la Ligue nationale cette année, c'est le 1er décembre, et ça approche à grands pas. Avant de te laisser, je veux te parler de ton information de la semaine dernière au sujet de Patrick Roy. Patrick Roy dirige les Remparts. On sait très bien. Je vais parler pour moi parce que j'ai pas l'impression que tout le monde à Québec pense comme moi. J'ai l'impression que Patrick ne sera pas ici pour 5 ans, pour 7 ans ou pour 8 ans. J'ai pas cru Patrick quand il a dit dans son point de presse qu'il se faisait un cadeau. Ça, c'était une ligne d'une agence de communication pour que ça passe bien et tout le monde a embarqué dans le panneau. Puis c'était la manchette des journaux le lendemain. Patrick se fait un cadeau. Patrick se faisait pas un cadeau. Patrick aime diriger une équipe de hockey. Puis là, il en dirigeait pas. Puis comme il n'y avait pas eu d'appel de la Ligue nationale, la seule option, c'était les Remparts. Ceci dit, tu as eu une information qu'il y a une équipe qui est intéressée à Patrick. Mais Patrick, quand on lui a demandé ça la semaine dernière à Québec, il a dit « Je suis aucun appel ». Donc, est-ce que je vais déduire qu'une équipe de la Ligue nationale s'intéresse à Patrick? Ils en ont parlé à Louis-Jean, mais pas à Patrick Roy?
Non, l'équipe n'en a pas parlé à Louis-Jean. Écoute, et d'ailleurs, je savais que l'équipe n'avait pas contacté Patrick Roy. J'ai jamais avancé. C'est drôle à quel point, des fois, le monde commence à déduire, puis tout ça. T'essaies de protéger des sources. T'essaies de faire attention sur une nouvelle. Et je sais que lorsqu'on parle de Patrick Roy, ça va devenir très gros au Québec, à Québec. Et j'ai trop de respect pour Patrick pour essayer de lui envoyer ça dans les patins non plus, là, pour le faire mal paraître. Ce qu'on m'a dit, moi, et ça m'a surpris, c'était pas une source, c'était pas une personne qui était proche du tout ou qui a des liens avec Patrick Roy. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que il y avait une rumeur qui circulait dans les girons de la Ligue nationale de hockey. Okay. Et j'ai été vérifier cette information-là pour voir est-ce que c'est bel et bien vrai.
Oui.
Il y a eu une organisation qui a eu des discussions à l'interne. Et lorsqu'ils ont parlé d'entraîneurs, lorsqu'ils ont parlé un petit peu de leur avenir, ils se sont posé la question, est-ce que Patrick Roy serait pas le gars, au moment où on est actuellement, avec le groupe de joueurs qu'on a, est-ce que ça pourrait pas être le genre de joueur, d'entraîneur qui peut venir réveiller nos joueurs, okay, qui pourrait venir peut-être relancer un peu notre organisation.
Okay.
Et c'est ce que j'ai rapporté.
Ouais.
Maintenant, je l'ai précisé en nombre, je l'ai précisé aussi dans l'article que j'ai écrit au tvsport.ca, Dan. Patrick Roy, là, il est pas comme tous les autres entraîneurs. Patrick Roy, s'il va revenir dans la Ligue nationale de hockey, il va avoir des conditions particulières. Il va avoir un mot à dire sur qui va jouer, quand, comment. Parce que c'est comme ça qu'il est, Patrick. Il va avoir une organisation avec laquelle il croit avoir une chance de gagner aussi, et tout ça. Maintenant, tout ce que ça veut dire, c'est que si Patrick revient, faut que ce soit des conditions idéales et parfaites. Je sais, et c'est la vérité, je le crois sincèrement, Patrick n'a pas eu de discussion avec une autre équipe dans la Ligue nationale de hockey. Je n'ai pas avancé qu'il allait revenir cette saison. Ce que j'ai dit, c'est que là où on est, il y a une équipe qui se pose la question, dans un bon marché de hockey,
oui,
est-ce que Patrick Roy pourrait peut-être être le gars qui vient donner un électrochoc à notre équipe? Sa passion, sa détermination et ce qu'il a fait dans le passé, c'est ça peut-être qu'on a de besoin. Maintenant, est-ce que cette équipe-là va décider d'aller de l'avant? Ça, c'est une autre chose.
Oui.
Est-ce que ça fonctionnerait avec Patrick? Ça, c'est une autre chose également.
Mais je remets pas en doute du tout ton information de la semaine dernière. Puis c'était un peu normal que Patrick réponde ça aux médias qui l'ont questionné.
Ben oui, exactement.
Mais Louis, moi, je pense que Patrick, de la façon dont il a quitté le Colorado, a perdu un peu de... pas de lustre, mais de pouvoir. Tu sais, on dit toujours, ah, Patrick, il va vouloir s'impliquer dans les décisions hockey, puis il va vouloir avoir sa carte d'affaires adjoint au DG, comme il y avait au Colorado. Ben, moi, je pense que ça se peut aussi, t'as parlé de conditions gagnantes, ça se peut aussi que Patrick doive accepter un poste d'entraîneur-chef, et simplement d'entraîneur-chef, parce que ça se peut qu'il n'y en ait pas de mots à dire dans les décisions hockey.
Ouais, mais écoute, alors là, ça devient une question de bon, est-ce que j'aime la situation, est-ce que je suis intéressé par l'offre et tout ça. Et Patrick va pas aller nulle part non plus. Là.
Non.
Je veux dire, Patrick va aussi choisir où il va aller travailler. Il n'a pas besoin de ça. Et t'as mentionné le travail qu'il fait présentement avec les Remparts. Les Remparts de Québec, c'est une équipe qui est en reconstruction. On va se dire les vraies choses. Là. Je veux dire, c'est une équipe qui, on s'attendait pas à ce que cette équipe-là ait une fiche, tu sais, gagne 75% de leur match cette saison.
Ça
donc, il est revenu quand même parce qu'il y avait le goût. Il y avait le goût de s'investir. Il y avait le goût encore de se retrouver derrière un banc. Il y avait le goût d'essayer de redonner aux enfants puis de coacher. Il s'ennuyait et se trouvait probablement trop jeune pour rester à la maison puis d'aller golfer la moitié de l'année, même si pour toi, c'est peut-être la vie parfaite. Alors ça, de ce côté-là, je respecte ça. Et ça va être vraiment, et comme je l'ai mentionné, ça va prendre des conditions parfaites pour marier et retrouver un Patrick Roy dans la Ligue nationale de hockey. Mais le fait que le monde commence à parler de toi, déjà, c'est quelque chose.
Oui,
le fait que soudainement des organisations se disent peut-être que c'est lui, ben c'est souvent comme ça que ça commence.
Pittsburgh et Edmonton, je sais pas si c'est des conditions parfaites pour lui, mais il y a des maudits bons joueurs de hockey dans ces équipes-là. À eux deux, à Edmonton et Pittsburgh, au cours des 16 derniers matchs, ils ont gagné seulement 2 matchs. Ça pourrait être des options intéressantes si jamais changement d'entraîneur à ce niveau-là. Un gros merci, Louis.
Monsieur Danpo, toujours un plaisir. On se reparle lundi.
Parfait. Bonne soirée à toi.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Honnêtement, c'est pour moi, c'est ce ne sont que des rumeurs. Puis j'ai pas eu aucun appel.
Nous le dirais-tu si t'avais des discussions?
Ben, je serais peut-être plus évasif. Mais maintenant que j'en ai pas eu, fait que c'est plus facile d'être direct, c'est sûr. Mais non, j'ai pas eu de discussion. Bon, un intérêt, ça dépend toujours des circonstances. Ça dépend toujours avec quelle organisation. Est-ce que j'écouterais une équipe de la Ligue nationale? J'ai toujours dit oui. Je veux dire, j'ai toujours pensé qu'écouter, c'est un signe d'intelligence.
Pendant que les joueurs enfilent leurs patins, au FM 93, on donne tout un show. L'avant-match, lundi au vendredi, 18h, avec Dan Pou.
Arby's, nos burgers connaissent un flamboyant succès bœuf. Savourez-en un avec des frites et une salade de choux chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf.
Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar.
Avec ceux qu'on aime au barbiesgrill.com.
Je vous parle de Honda de Giraud. Évidemment, Honda de Giraud, c'est un concessionnaire auto situé à Montmagny. Gilles Thibault, propriétaire de cette entreprise depuis 1987. Un maudit bon gars. Le genre de propriétaire avec qui vous allez vouloir devenir ami quand vous allez faire une transaction là. Le VUS de l'année, selon Motor Trend, c'est le CR-V 2018. 1,99% le taux d'intérêt. C'est en location 42 mois. Et on va vous donner, si vous avez un véhicule d'échange, un très bon montant pour votre véhicule d'échange parce que nos employés sont passés au travers d'un camp d'entraînement pour connaître les subtilités de l'évaluation d'un véhicule d'occasion chez Honda de Giraud, avenue Saint-David, Montmagny.
Nouveau à Beauport, la station vous offre des condos locatifs, tous neufs, pour occupation immédiate. Nous offrons même le déménagement gratuit. Votre unité neuve vous attend sur le plus beau site de Beauport à 10 minutes du centre-ville avec piscine, gym et stationnement intérieur. Détails sur immeubleroussin.com.
Avez-vous déjà osé sortir de l'ordinaire? Comme vous balancer sur un lustre, sauter à pieds joints sur un lit ou vous envoler vers les nuages? Avez-vous trouvé l'âme sœur? Ou en avez-vous trouvé plusieurs? Laissez-vous emporter par la vie avec Corteo du Cirque du Soleil. Une parade majestueuse aux acrobaties exaltantes. Joignez-vous à nous au Centre Vidéotron du 6 au 9 décembre. Corteo est présenté par Placement Mondiaux Sun Life. Billets au cirquedusoleil.com.
Pour une annonce de pick-up, ça prend une grosse voix de pick-up.
Parfait, laisse-moi aller. Le mois du camion se poursuit chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Viens chercher ton Titan, tout noir, édition minuit, en location à seulement 430 $ par mois sur 24 mois. C'est comme payer seulement 99 $ par semaine. On peut pas aller plus bas. Tous les détails chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
C'est la vente du Vendredi fou chez Ameublement Tanguay. Nous vous offrons des facilités de paiement, des rabais dans tous les départements et la livraison gratuite partout au Québec. Procurez-vous un fauteuil Lazy Boy, berçant et inclinable avec assise en cuir à seulement 649 $, une économie de 150 $, ou un sofa chaise longue inclinable avec console à seulement 799 $, un rabais de 200 $. Le Vendredi fou, c'est chez Ameublement Tanguay et sur tanguay.ca.
Surprise pour le Vendredi fou. Jusqu'au 28 novembre, obtenez 1000 $ de rabais supplémentaires sur les Forte 2018. Maintenant, à partir de 17 545 $. Quatre pneus d'hiver en cadeau, siège chauffant et caméra de recul inclus. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Ouvert le samedi.
Salut, c'est Jean de Lily Chrysler. C'est déjà le temps des ventes de fin d'année. Oui, oui, Noël s'en vient. On vous offre le RAM à 98 $ par semaine ou encore le Grand Cherokee à 114 $. À l'achat, sur 96 mois, avec un taux de 4,99%, avec 0 $ comptant et les taxes en sus. Un RAM, quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Un Grand Cherokee, parce qu'un Jeep, c'est un Jeep. Pour les meilleurs, c'est Lévis Chrysler, pas ailleurs.
4 Québécois sur 10 pensent que nos frontières sont trop perméables, que les immigrants menacent la pureté du Québec. 4 sur 10! Est-ce que le Québec est en train de se radicaliser? Mercredi, à Télé-Québec, un ancien skinhead néo-nazi croit que oui.
Je m'appelle Maxime Fizette. J'ai l'air tranquille, mais je suis vraiment inquiet.
Découvrez son combat dans le documentaire La Bombe. Tout de suite après au Franc-Tireur, on va jaser de tout ça. Une soirée sur la radicalisation, le film La Bombe, suivi des Francs-Tireurs, mercredi 20h à Télé-Québec.
Des pieds fatigués, ils en ont vu en 40 ans. Chez les orthésistes du pied de Québec, profitez de cette expérience. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
C'est l'événement au 100 balles pour Honda de Giraud. La Civic 2019 renouvelée en location à 1,99% pour 36 mois, aucun acompte. Honda de Giraud, toujours ouvert le samedi.
FM 93, vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour.
Grâce au FM 93 et à l'équipe du retour, vous pourriez gagner vos billets pour assister à la Coupe Vanier. Inscrivez-vous sur fm93.com et écoutez le retour. Vous pourriez gagner l'une des quatre paires de billets place assise pour vivre toute la frénésie de la 54e édition de la Coupe Vanier.
Le FM 93.
FM 93.
Concours FM 93. Ça me parle. Stan Pou, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant d'estrade, le journaliste. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match. Dans l'avant-match, le week-end du Rouge et Or Football avec le coordonnateur offensif Justin Étier. FM 93, ça me parle.
Comme on le fait chaque semaine dans l'avant-match suivant un match du Rouge et Or, on va s'entretenir maintenant avec le coordonnateur à l'attaque chez le Rouge et Or Football, Justin Étier. Salut Justin.
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va exciter.
Ouais. Là, ça commence à être le fun, votre histoire.
Là. Ouais, non, là, ça peut pas devenir ben plus agréable que ça. Donc, c'est très excitant pour tout le monde dans l'organisation.
Justin, j'ai eu des textos de gens qui étaient dans le bois, pas d'Internet, en fin de semaine, puis qui me disaient, « Puis Dan, as-tu le score du Rouge et Or? » Puis là, je leur répondais, « Ben, c'est 31-0, puis c'est 39-0, puis ça a fini 63-0. » Ils disaient, « Ah, ouais, Caroline, c'est... » Tu sais, la réaction des gens qui m'envoyaient des textos, c'était, « Ah, ouais, donc ben plate. » J'imagine que, comme coach et comme joueur, c'est pas plus le fun de diriger un match qui est gagné 63-0, hein?
Ben, c'est rendu là, tu sais, nous, on veut atteindre le match ultime, puis, tu sais, en ce moment, ben, nous, tu sais, je veux dire, on peut avoir des discussions à un autre moment où est-ce qu'on dit, ça serait le fun d'avoir un autre format de série ouais. ou quoi que ce soit, mais nous, en ce moment, dans ce format-là, on affronte les Maritimes, c'est sûr qu'on espère. Je pense qu'on s'est très bien préparé, ça a bien été, mais je veux dire, on se pose pas la question, on est bien content, même que là, tout le monde me pose la question, bon, c'est mieux d'avoir un match compétitif avant. Ouais. Écoute, l'année passée, on est allé jouer à Calgary, on a gagné dans les dernières minutes du match pendant que Western massacrait Maritime. Donc, je veux dire, c'est dur à évaluer ces choses-là. T'sais, nous, c'était idéal pour nous d'avoir un match à la maison, pas besoin de voyager. Ça s'est passé vraiment bien dès le départ. Ça nous a permis, dès le début de la deuxième demi, de pouvoir reposer plusieurs partants. Donc, on pense que c'était quand même un bon scénario pour nous.
J'avais l'impression que même en faisant pas par exprès en deuxième demi, vous faisiez des points pareils.
Ah, absolument. Oh, ouais, absolument. On me parlait ce matin, on faisait allusion que on a vraiment sorti les partants rapidement. Au début du troisième quart, on voulait juste s'assurer d'avoir un bon départ. On a laissé Hugo Richard là, mais clairement, on courait avec le ballon. C'était ça l'objectif. On voulait juste s'assurer que l'exécution était bonne. Ça a été le cas. On a marqué, on a sorti Hugo par la suite. Mais ensuite, je veux dire, tout le monde qui était là savait qu'on allait courir avec le ballon. Là. Je veux dire, on ne faisait que ça. Mais la réalité, c'est qu'on avait 7 joueurs de ligne à l'attaque. Donc, il y en a 5 sur le terrain. Donc, au bout de la ligne, il y a des partants qui n'ont pas le choix de jouer jusqu'au bout. Nos 7 joueurs de ligne sont très bons. On a 3 excellents porteurs de ballon. Et on a vu que notre troisième porteur de ballon était en feu en deuxième demi. Donc, c'est sûr que c'est difficile. On courait, c'était très prévisible. Malheureusement, il semblait pas avoir de réponse pour notre attaque au sol. Donc, dans ce temps-là, on veut pas augmenter le score, mais à un certain point, on commencera pas à mettre des genoux à terre à la fin du troisième quart. Donc, ça a donné le résultat que ça a donné.
Est-ce que c'est une philosophie d'organisation? Est-ce qu'il y a un message à lancer aux joueurs avant un match contre les Maritimes en demi-finale canadienne comme ça pour la façon, je te dirais, de réagir après un toucher ou d'être content après une victoire de 63-0? Est-ce que vous laissez les joueurs gérer ça de la façon dont ils pensent que c'est mieux de gérer? Ou j'ai senti, puis tu me diras si je me trompe, j'ai senti en regardant le match à la télé samedi, que les gars étaient tout aussi contents d'avoir gagné ce match-là que si ça avait été un match gagné, je vais te dire, mettons, 24-20 contre UBC.
Ah, je te garantis que les gars étaient vraiment super contents. Tu sais, il faut comprendre, il y a plusieurs facteurs là-dedans. C'est sûr que si on regarde juste le match contre les Maritimes, bon, par la suite, tout le monde dit, bon, vous l'avez dit, que ça allait être facile. Ouais. Tu sais, nous, on n'a pas cette approche-là. Donc, toute la semaine, on s'est super bien préparé. Les joueurs se sont super bien préparés. Mais il faut comprendre aussi que il y a quand même une certaine pression. Tu sais, c'est le fun d'avoir la Coupe Vanier à Québec. On est excité de ça, mais c'est sûr qu'il y a une pression de se rendre au match. Ouais. Tu sais, je veux dire, ouais. c'est il y a des années qu'on l'a réussi, il y a d'autres années qu'on l'a pas réussi. Donc, je pense qu'il y a tout le temps beaucoup d'excitation quand on sait que la Coupe Vanier va être à Québec, mais il y a aussi une pression qui vient avec. Puis c'est sûr que nous, on savait que, tu sais, Glenn souvent emploie défoncer des portes. On devait défoncer, tu sais, les séries, c'est ça, c'est une porte à la fois. Puis pour nous, ça, c'était la troisième étape. C'est la troisième porte qu'il fallait défoncer pour se rendre au match de la Coupe Vanier. Donc, je peux te garantir que tout le monde était vraiment, vraiment excité, vraiment content du match. Puis on n'a pas vraiment fait la différence entre un 63-0, comme tu dis, ou un 24-21. Okay. On était vraiment content comme organisation.
OK. Est-ce que pour toi, samedi, c'est un match revanche?
C'était plus ou moins comme ça qu'on l'approche, parce que tu sais la réalité, c'est le match de la Coupe Vanier, puis c'est ce qu'on veut atteindre, puis il y a bien du monde qui aimerait atteindre ce match-là. On est vraiment excités d'être là, et là ça donne qu'on affronte l'équipe de l'an dernier. Pour nous, c'est sûr que l'an dernier, la défaite, elle a mal passé. Ça n'avait pas été un match qu'on était vraiment satisfait. Il avait définitivement été meilleur que nous ce jour-là. Puis, comme on avait dit aux joueurs à ce moment-là, ben on n'avait pas le choix de cultiver notre patience en espérant que peut-être on pourrait, en sachant qu'eux autres allaient être encore très bons cette année. Nous, on croyait beaucoup en nos moyens aussi cette année. Donc, on se disait, il pourrait y avoir une possibilité de les revoir un an plus tard. Mais on devait cultiver notre patience. Donc là, finalement, on est là. Est-ce que c'est un match revanche? On parlera pas vraiment de revanche de notre bord, mais nous, notre côté, c'est qu'on est excité, je pense, d'avoir la chance de pouvoir se remesurer à cette équipe-là qui est excellente. Mais on est excité, puis je pense que n'importe quel athlète, que ce soit dans des sports individuels ou n'importe quelle équipe, je pense que c'est toujours excitant d'avoir la chance de pouvoir essayer de te reprendre quand t'as subi une défaite, là.
Justin, à première vue, c'est quoi, selon toi, les grandes différences entre votre équipe de l'année dernière et celle de cette année, puis peut-être faire le même exercice avec Weston de ce que t'en sais en date d'aujourd'hui?
Ouais. Les équipes n'ont pas changé beaucoup. Je veux dire, les deux équipes en partant alignent les mêmes corps arrière. Tu sais, je pense qu'encore une fois, les grands joueurs vedettes des deux bars sont encore là. Eux ont encore une fois connu une saison extraordinaire. Offensivement, ils sont vraiment impressionnants. Ils dominent pas mal tout sur leur passage au niveau offensif. Donc, ils ont une offensive très, très explosive. Puis nous, de notre côté, qu'est-ce qui est différent? Je pense que l'an dernier aussi, là, tu sais, l'an dernier, ça n'a pas été comme on voulait à la Coupe Vanier, mais on avait eu toute une saison. Je pense qu'on avait démontré beaucoup de caractère, encore une fois, avec des grosses victoires contre Montréal. On demeure encore à ce jour la seule équipe qui a été en mesure de battre des équipes de l'Ouest dans l'Ouest. Ça, on n'en a jamais parlé, mais dans toute l'histoire des demi-finales canadiennes, on est le seul programme qui a réussi à gagner dans l'Ouest. Donc, l'an passé, il s'est fait des grandes choses au niveau caractère. Malheureusement, à la fin, on a été battu. Si on me demande une différence, c'est sûr que je pense qu'on est une équipe un peu plus reposée que l'an dernier. Je pense que l'an dernier, on avait beaucoup de blessures à la fin, puis on revenait le voyage, beaucoup de voyagements vers la fin de la saison. Ayant dit ça, c'est pas une excuse. On a toujours complètement, je pense que Western a totalement mérité sa victoire, mais je pense qu'on est une équipe un peu plus reposée, puis ça va être intéressant. Je pense que notre niveau d'énergie, j'espère, va être meilleur que celui de l'an dernier.
C'est quoi le règlement du U Sports concernant les échanges de vidéos entre Western et vous pour la préparation de la finale?
Il n'y a pas de règlement. Okay. Il fut une époque où on échangeait là, ouais, des cassettes VHS,
ouais,
là, donc
ça,
là, t'avais un certain nombre de matchs. Mais maintenant, tous les films sont sur des serveurs, là, okay. Donc on a accès là, on a accès à tout là.
Ouais. Vous avez regardé le match les coachs ensemble ou?
Au début, okay. Une partie là, ouais, on a regardé ça, mais après ça, évidemment, tout le monde. Tout le temps, c'est le fun de regarder ça, mais à la télévision, c'est pas la même chose.
Non.
Puis la réalité, on sait que le lendemain, on va tout avoir ça en film, puis on va regarder vraiment décortiquer ça avec les différents angles, tout ça. Sur le coup, c'est sûr qu'on est curieux de voir comment ça se passe. Saskatchewan a vraiment eu un très, très bon départ. Saskatchewan était excellent. C'était un bon match du début à la fin, mais éventuellement, Western, je pense qu'il était un peu plus fort, puis ils ont pris le contrôle là, au quatrième quart. Mais non, c'est tout le temps le fun. Là, tu le regardes d'un œil curieux. Je pense qu'en tout cas, chacun dans l'organisation, on avait quand même un petit côté qu'on espérait revoir Western.
Ouais.
On a regardé ça. Puis écoute, mais on veut. Tu sais, tantôt tu parlais. Tu sais, on a quand même pris le temps de. Je pense qu'on était satisfait de notre match samedi. On était content. Puis samedi soir, ça demeure la soirée où justement tu veux prendre le temps de te reposer puis de savourer cette victoire-là puis de savourer qu'on atteignait la Coupe Vanier. Puis là, le dimanche, ben là, on a recommencé.
Parfait. Un gros merci, Justin, de nous avoir parlé. Très apprécié ce soir encore une fois. Et bonne semaine
merci
de préparation.
Beaucoup, bonne soirée. Salut. Merci.
Salut bien.
Au FM 93. Ready? L'avant-match avec Dan Pou.
Jusqu'à samedi, c'est le solde du Vendredi fou. Ici, chez Kia Laurier Station. Avec le plus gros inventaire de Kia au Québec, vous courez la chance de gagner le gros lot de 25 000 $ du prix du gros. C'est ça, le Vendredi fou. On vous attend chez Kia Laurier Station.
Salut, c'est Steve. Bienvenue à l'avance.
À l'avance.
Le show qui t'informe à l'avance.
À l'avance.
Sur des aubaines, ça accroche. On est à l'avance.
À l'avance.
Édition Vendredi fou. Va chez Canadian Tire du jeudi 22 au dimanche 25 novembre et économise plus de 50% sur la Castrol Edge et Castrol GTX. C'est mieux que moitié prix sur la Castrol chez Canadian Tire. Profites-en. T'es à l'avance.
À l'avance.
Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. C'était à l'avance.
À l'avance.
4 Québécois sur 10 pensent que nos frontières sont trop perméables, que les immigrants menacent la pureté du Québec. 4 sur 10. Est-ce que le Québec est en train de se radicaliser? Mercredi, à Télé-Québec, un ancien skinhead néo-nazi croit que oui.
Je m'appelle Maxime Fizette. J'ai l'air tranquille, mais je suis vraiment inquiet.
Découvrez son combat dans le documentaire La Bombe. Tout de suite après au Frontières, on va jaser de tout ça. Une soirée sur la radicalisation. Le film La Bombe, suivi des Francs-Tireurs, mercredi 20h à Télé-Québec.
Surprise pour le Vendredi fou. Jusqu'au 28 novembre, obtenez 1000 $ de rabais supplémentaires sur les Forte 2018. Maintenant, à partir de 17 545 $. 4 pneus d'hiver en cadeau, siège chauffant et caméra de recul inclus. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Ouvert le samedi.
Conseil de sommeil, de dormez-vous. Et où le bouton du gang?
J'ai pesé ce bouton rouge à la place.
Bah, ben, c'est parfait pour le solde des leftos du Vendredi foot de Dormez-vous, enfin en cours. De plus, obtenez un matelas grand lit en super achat à 299 $ et un oreiller en coton biologique pour 25 $, notre plus bas prix jamais annoncé jusqu'à épuisement des stocks. Ce vendredi, nos magasins ouvrent dès 8h. Puis, économisez l'équivalent des taxes jusqu'à midi. Seulement chez Dormez-vous, tout pour le sommeil.
Votre nouveau concessionnaire Ford à Lévis, Lévis Ford. Jusqu'au 27 novembre, à l'achat ou location d'un F-150 2018, obtenez jusqu'à 10 850 $ de rabais. Et ça comprend vos pneus d'hiver sur roues et capteurs gratuitement. Lévis Ford, encore plus fort. 61 Kennedy, Lévis.
Les gars, confiez donc votre look au salon Blades Barbier. On vous rase avec serviette chaude, on vous coiffe à la lame, au ciseau ou au clipper. Vous voulez améliorer votre look ou en créer un nouveau? Venez rencontrer nos artistes de la coupe et du rasage. Eux autres, ils vont savoir quoi faire avec votre belle face. Et tant qu'à y être, offrez-vous donc le rasage royal, un rasage en 17 étapes. Profitez de nos nombreux spéciaux sur les pommades et crèmes à barbe. Les gars, arrêtez de chercher le salon parfait pour vous et surtout, faites pas ça vous-même. Confiez votre look à Blaise Barbier, aux Galeries de la Capitale.
Vendre sa maison sans commission, ça ne veut pas dire la vendre seule. Avec Duproprio, vous serez accompagné jusqu'à la vente. Venez découvrir comment le 20 novembre à l'Hôtel Plaza Québec de Sainte-Foy dès 19h30. Détails sur duproprio.com.
Dès mercredi, équipez-vous en grand avec le solde du Vendredi fou chez Sale. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur presque tout en magasin. Un événement plus grand que nature à ne pas manquer chez Sale, la plus grande destination plein air. Tous les détails à sale.ca.
Quand ton travail, c'est de conduire ton camion, tu veux pouvoir te fier dessus à 100%. C'est pour ça qu'il faut le confier à des gens qui connaissent ça. Comme chez Suspension et Ressort, Michel Jeffrey. Chez Jeffrey, ça fait 30 ans qu'ils entretiennent les véhicules lourds. C'est ce qu'on appelle une expérience à toute épreuve. Pour les camions, les remorques, la suspension et l'entretien, Jeffrey, c'est des professionnels au service des professionnels. Le spécialiste de l'entretien de véhicules lourds. Suspension et Ressort, Michel Jeffrey. 2717 Avenue Watt, par Colbert.
Jusqu'à samedi, c'est le solde du Vendredi fou, ici, chez Laurier Station Chevrolet. Achetez votre camion GMC ou Chevrolet et courez la chance de gagner le gros lot de 25 000 $ du prix du gros. C'est ça, le Vendredi fou! On vous attend chez Laurier Station Chevrolet.
Conseil de sommeil, de dormez-vous. Quoi de mieux pour relaxer que la douce mélodie d'une nouvelle couette? La perfection! Ou celle-ci?
Oh, elle est tellement douillette!
Ou celle-là? J'en sortirai plus, je l'aime trop! C'est l'événement Couette en vedette chez Dormez-vous. Obtenez des couettes de microgel de toute grandeur, même très grand lit, pour seulement 99 $. Ah oui, et avec le plus beau son au monde. Le son d'un super prix. Ça finit bientôt. Seulement chez Dormez-vous, tout pour le sommeil.
Barbies, Resto Bar, Grill.
Chez Barbies, nos plats de côte levée sont bons à l'os. Dégustez-en un avec des frites et une salade de choux maison chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Avec ce qu'on aime au barbiesgrill.com.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou. Dans l'avant-match, le football de la NFL avec William Boivin.
FM 93, ça me parle.
On souhaite la bienvenue à Will dans l'émission de ce soir. Salut Will.
Salut mon Dan.
Juste avant de parler d'NFL, et je pense que tu veux revenir sur la formule des séries au football universitaire.
Oui, oui, oui.
Je veux quand même saluer nos deux équipes de la région qui ont participé au Bol d'Or en fin de semaine. C'est pas chaque année qu'on peut se vanter d'être allé au Bol d'Or, emblème du championnat provincial de football scolaire. Les Allants de Fitzgarneau ont perdu, mais c'est un peu normal qu'ils aient perdu samedi après-midi.
Ouais.
Ils jouaient contre Jonathan Sénécal. Éric Lavigne l'a vanté jeudi dernier. Tu l'as vanté également dans l'émission, dans les dernières semaines. On dit de lui que c'est un des meilleurs quarts arrière à être passé au football scolaire dans la province dans les 20 dernières années.
Ouais.
Ça a fini 41-18, exact. Si ma mémoire ne fait pas défaut. Ouais.
Quand même.
Donc, Garneau a perdu. Et hier, dans un match crève-cœur, le Blizzard du séminaire Saint-François en juvénile 3 a perdu 38-32 en prolongation contre le collège Jean-Eudes, un collège privé de l'île de Montréal. Le Blizzard, c'était une 7e participation sur 8 les 8 dernières années au Bol d'Or, mais il menait 32-17 après 3 quarts. Cette défaite-là a dû faire mal plus que d'autres.
Ouais, malheureusement pour ces deux programmes qui développent des joueurs depuis plusieurs années pour le niveau supérieur.
Ouais.
Malheureusement, ils se sont inclinés au Bol d'Or ce week-end, mais quand même bravo à eux d'y avoir accédé.
Football universitaire, les séries, évidemment, je viens de faire une entrevue avec Justin Étier, puis Justin n'allait pas à 5 jours d'un match aussi important, commençait à déblatérer sur la formule idéale des séries. Toi, tu as joué au football, tu suis du football, tu manges des footballs, du football, tu parles avec des gars qui ont joué plusieurs années dans la CFL puis au niveau universitaire. Est-ce qu'il y en a une solution idéale?
Ben, est-ce qu'il y en a une? Je ne pense pas, mais est-ce qu'on peut améliorer le format actuel? Je pense que oui,
okay.
Absolument.
Okay.
Voir une demi-finale canadienne se terminer 63-0, c'est pas normal. Voir même une demi-finale interligue, là, au Québec, comme il y a 2 semaines, se terminer 50-0,
oui.
Comme le McGill contre le Rouge et Or, McGill contre les Carabins,
oui.
Et
Sherbrooke contre le Rouge et Or.
Oui. C'est pas normal non plus. Oui. Est-ce qu'on pourrait changer la formule? Absolument. Il n'y a pas de scénario parfait. On parle beaucoup d'une division 1 qu'on pourrait planter au Canada avec les meilleurs programmes à l'échelle nationale. Mais bon, ça ne semble pas être dans les cartons actuellement. Ça semble être trop compliqué, Dan, les couler, ici, les ça. Mais je crois qu'avec le top 10 qu'on fait à chaque année,
oui.
C'est-à-dire avec les meilleures équipes un peu partout au Canada. Quand on va sur le site du U-Sports, on voit toujours le classement canadien des 10 meilleurs programmes universitaires de football au Canada.
Oui.
Pourquoi pas utiliser ce top 10 canadien, y aller par exemple avec les 8 meilleures formations et faire un quart de finale, demi-finale et finale. Donc garder les 8 meilleures formations, 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Et on y va d'une formule éliminatoire au lieu de gagner chacun notre province.
Peu importe la conférence.
Okay. Peu importe la conférence, okay. je te présente ce modèle-là puisque c'est le modèle que les Américains ont pris dans la NCAA il y a quelques années. On a plusieurs formations, des bonnes, des moins bonnes. C'est un peu le cas également à Alabama qui détruisait tout le monde. On a décidé donc d'implanter une division 1, oui, mais également de faire des séries éliminatoires en prenant les 4 meilleures formations à l'échelle nationale et ces équipes-là pouvaient participer aux séries. Alors pourquoi pas prendre le modèle américain, l'amener ici et voir qu'est-ce que ça pourrait faire dans les prochaines années.
Et il n'y a jamais de demi-finale. Des fameux bowls américains qui se terminent 63-0.
Jamais, parce que c'est des équipes qui se ressemblent mais qui sont de calibre.
Ouais.
Donc, on veut les meilleures formations contre les meilleures formations. J'en avais parlé avec Danny Machocha, entraîneur des Carabins de Montréal, tout juste avant la finale de la Coupe d'Ansmore.
Okay.
Je lui avais posé la question si la formule présentement est la bonne et est-ce qu'on pourrait peut-être penser à changer les choses. Réponse très intéressante de Machocha. Je vous le fais réentendre.
Sans manquer du respect envers les autres équipes à travers du pays, je souhaite un jour que ça ne sera pas la Coupe d'Ansmore, mais ça sera la Coupe Vanier, qui ces deux grandes organisations vont s'affronter puis ils vont vivre. Partisans de football, pas seulement universitaire, mais en général, aimeraient voir ça un jour. Les deux meilleurs devraient s'affronter chaque année pour la Coupe Vanier. Moi, je suis ouvert à toutes sortes de modèles, de discussions, de s'asseoir puis d'en parler. mais je pense pas qu'on peut se permettre de penser qu'on va garder le statu quo puis les choses vont changer. Alors, je le souhaite. C'est sûr, il y a beaucoup de réflexions. Ça appartient au leadership, là. Ça appartient aux dirigeants de s'asseoir puis de regarder comment on peut améliorer ce produit-là.
Donc, des demi-finales qui se terminent 63-0 au Canada. Et surtout des clubs comme les Carabins et les Dinos de Calgary qui sont en vacances présentement, pendant que des clubs comme Saint-Effix se jouent encore ce week-end. C'est un peu impensable, là, oui. Donc, et je pense que le sport, en quelque sorte, là, j'y vais fort, Dan, mais en souffre, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a personne qui veut regarder ces matchs-là. Il n'y avait pas grand monde au Peps en fin de semaine. On va être là ce week-end pour la Coupe Vanier, comme c'était le cas il y a deux semaines pour la Coupe d'Antimore. Mais on veut un spectacle. Et c'est les fans qui sont perdants aussi un peu là-dedans.
Absolument, aucun doute. Les partisans, bravo. Les gens qui sont déplacés vers le Stade TELUS samedi, un gros bravo. Et samedi prochain, toi et moi, Will, on va être là. Ben oui. Je suis convaincu que ça va être très plaisant contre Western. NFL maintenant, la semaine dernière... on est allé faire une réunion du CA de l'avant-match. Puis tu m'as dit, Dan, les Saints, il va falloir que tu les analyses un peu plus. C'est toute une machine. Tu m'as même dit la semaine dernière que tu t'attendais à ce qu'ils jouent au Super Bowl. Hier, ils ont fait tout un commitment.
Ah, c'est l'enfer. Quelle machine de football, les Saints de Nouvelle-Orléans. C'est huilé, on fait tout bien, on est bon offensivement, défensivement, on est capable de sortir des jeux que les adversaires n'ont pas encore vu cette saison. Vraiment, les Saints, c'est l'équipe à battre présentement dans la NFL. Et hier, bon, ils affrontaient une formation décimée, celle des Eagles de Philadelphie, qui venait de perdre un match très important contre les Cowboys. Donc, les Eagles arrivaient là déjà un peu comme perdants, mais quand même, ils se sont fait piler d'en face contre une extraordinaire formation, celle des Saints. Et même les Eagles hier ont battu un record, pas d'avoir perdu, ben oui, d'avoir perdu dans le fond. C'est la première fois, Dan, dans l'histoire de la NFL qu'une équipe championne du Super Bowl perd un match l'année suivante avec un aussi gros écart.
OK.
41 points l'écart, la défaite 48-7. Alors, les Eagles, c'est un Super Bowl hangover cette année. Mais les Saints, Dan, là, on bat et on pulvérise tout le monde qu'on affronte. 51 points contre les Bengals, 48 contre les Eagles. Qui va arrêter les Saints à Nouvelle-Orléans? Bonne chance.
Plusieurs matchs serrés en fin de semaine. J'ai regardé les pointages. Beaucoup de matchs par 2 ou 3 points. C'est un hasard ou... On va voir ça de plus en plus. Il me semble que les dernières semaines, on voyait pas des matchs aussi serrés.
Oui et non, je te dirais. Depuis le début de la saison, quand même une parité assez importante dans la NFL. Regarde, des clubs comme les Titans du Tennessee qui battent les Pats la semaine dernière et là se font corriger par les Colts en fin de semaine.
Oui, j'ai vu ça, ouais.
C'est inexplicable. Okay. Je pense d'un match à l'autre, n'importe qui peut battre n'importe qui, mis à part peut-être 2-3 formations, les Raiders, les Cards, les Bills. N'importe qui peut battre n'importe qui dans la NFL. Il y a des bons joueurs partout. Okay. On est de calibre partout. C'est sûr que les Rams, les Chiefs, les Pats sont d'excellentes formations, contrairement à d'autres. Mais il y a une parité importante dans la NFL et il n'y a jamais un match qui est gagné d'avance.
OK. Explique à nos auditeurs pourquoi ils devraient tant regarder le Monday Night ce soir.
Duel de Goliath, Dan, entre les Chiefs et les Rams. Deux équipes à 9 victoires, une défaite. Il n'y a pas de David sur le terrain en soir. Là. C'est uniquement des Goliaths. Deux équipes qui pourraient très bien se retrouver le 3 février prochain à Atlanta pour le 53e Super Bowl. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Monday Night aussi bon, je crois, même si le match n'est pas encore joué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon Monday Night Football. Ces deux offensives de jeux vidéo, on marque 35 points par match. Donc, je m'attends au moins à 70 points marqués ce soir. Okay. Les défensives sont bonnes, mais on est tellement bon offensivement que j'ai l'impression qu'il y aura des points qui vont se marquer. Le match également devait avoir lieu initialement à Mexico City. La surface de jeu était atroce avec un A majuscule. On a décidé de déplacer le match à Los Angeles. Puis ça, je suis content, Dan, parce qu'on jouera, on jouera une place. Souvent, les matchs à l'extérieur des États-Unis brise un peu le spectacle.
Okay.
Donc là, c'est un peu mieux que le match soit présenté à Los Angeles. Duel de Goliath, Rams, Chiefs.
Qui va gagner?
Je donne avantage aux Rams puisqu'ils ont une meilleure défensive.
Parfait.
Mais le spectacle sera extraordinaire. Un petit peu de Canadien, Monday Night Football. On est servi les fans de sport.
Un gros merci, Will. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Le Canadien s'installe. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.
Jusqu'à samedi.